submergé par la grandeur de Dieu. J'ai vraiment été touché et je me suis dit, mais qui tu es, toi, pour prendre la parole, pour parler de Dieu et pour parler du sujet dont on va parler aujourd'hui. Voilà, et je remercie le Seigneur parce que même si je me sens très faible, je sais que lui donne des forces. Et on va s'incliner dans la prière et je vous demanderai de prier pour ces moments, prier pour moi aussi, pour que, comme disait l'apôtre Paul, Dieu me donne la sagesse d'annoncer clairement ce dont je dois parler. Notre Dieu, merci encore pour qui tu es, pour notre espérance. Merci de nous réunir autour de cette parole aujourd'hui. Nous voulons l'ouvrir, elle est tellement précieuse. Nous sommes tellement privilégiés dans notre pays, la France, d'avoir à disposition cette parole, de pouvoir l'ouvrir sans crainte, sans persécution, sans interruption. Seigneur, c'est un privilège que nous réalisons très peu et je voudrais m'en souvenir encore ce matin. Merci de nous l'avoir donné, de l'avoir transmise au travers des générations jusqu'à aujourd'hui. Merci pour la richesse qu'elle représente, merci pour la lumière qu'elle est pour chacun de nous. Et merci parce que c'est toi qui es la source, le centre et l'inspiration de cette parole. Bénis ces moments, Seigneur. Amen. Je vous ai préparé un petit... Apparemment, j'ai un problème de connexion, donc je ne sais pas ce qui se passe. C'est la nouvelle année. Bon, c'est pas grave. Guy va nous solutionner ça avec la grâce de Dieu. Voilà, donc en ce début d'année, les anciens ont décidé de mettre l'accent sur quatre passages du livre d'Ésaïe. Vous savez que le livre d'Ésaïe, on l'étudie depuis quelques mois. C'est un livre qui est long, c'est un livre majeur de la Bible, un prophète majeur de la Bible. Donc on fait des sauts de puce dans le livre d'Ésaïe. Pour ceux qui assistent le jeudi, il y en a très peu, mais pour ceux qui assistent, on a vu quelques passages clés. Et on arrive donc là maintenant à ce qu'on appelle les chants du serviteur. Il y en a quatre dans la Bible, je préciserai tout à l'heure ce que c'est que le chant du serviteur chez Ésaïe. Mais c'est un passage donc prophétique qui a été écrit il y a très longtemps et qui nous parle... de la suite des temps, jusqu'à l'état éternel. Donc c'est un livre majeur de la Bible, c'est pour ça que c'est une grosse responsabilité de parler de ça. Je vais essayer d'en parler le plus clairement possible. Si le PowerPoint veut bien s'afficher, ça m'aidera, mais sinon j'en parlerai quand même de toute façon. Alors, la semaine dernière, Christian avait introduit l'année en fait sur un thème important. Il avait conclu son message en disant « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. » C'est la volonté de Dieu pour nous cette année. Je pense que c'est une belle parole qu'il nous a laissée. Que cette année, chacun de nous puisse briller de la lumière du Seigneur. Et l'image qui peut le mieux illustrer ça, c'est la lune et le soleil. En fait, la lune, c'est un astre inerte. C'est un astre qui n'a pas de signification, enfin, aucune consistance, il n'y a rien dans la lune. C'est un astre mort, c'est un peu ce que nous étions, nous, avant de connaître le Seigneur pour la plupart d'entre nous. Et lorsqu'on vient au Seigneur, ben, c'est le Seigneur qui remplit, qui nous donne cette lumière. Et comme la lune, on peut refléter la lumière du Seigneur. Mais il faut comprendre que cette lumière, on ne fait que la refléter. On ne peut pas la générer en nous parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. C'est ce que nous dit la Bible. Mais par la grâce de Dieu, si on se laisse remplir du Saint-Esprit, eh bien, c'est comme ça qu'on peut refléter cette lumière. Et c'est pour ça que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Et le texte dont on va parler aujourd'hui, donc c'est un texte qui est vraiment centré sur Jésus. Et c'est un texte qui va nous permettre justement de nous imprégner de qui est Jésus pour pouvoir être cette lumière, pour pouvoir refléter la personne de Jésus-Christ que l'on trouve au travers de toute la Bible, puisque Jésus-Christ est le centre de toute la Bible, et qu'on va trouver particulièrement dans ce texte d'Ésaïe. Donc le livre d'Ésaïe, je vais faire en trois parties, non ça ne marche pas. Je vais essayer de le faire en trois parties. Une première partie qui sera une synthèse en fait et un rappel du livre d'Ésaïe, si tant est qu'on puisse le faire, 66 chapitres dans la Bible, pour arriver au premier des textes en Ésaïe 42. Donc je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles en Ésaïe 42, versets 1 à 8, qui s'appelle le premier chant du serviteur. Et donc, on essaiera d'interpréter. Vous voyez, c'est un texte très facile à lire, mais on va essayer de l'interpréter à la lumière du Nouveau Testament. Et puis, ensuite, on en tirera quatre applications pour nous en ce début d'année. Quatre choses que nous pourrons emmener en ce début d'année. Voilà. Donc, on va lire ce texte. Bon, il n'est pas affiché, ben, ça ne fait rien. On va faire comme au bon vieux temps, on va prendre nos Bibles et on va l'ouvrir. Donc, Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 8. C'est assez court. « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé, il n'éteindra pas la mèche qu'il faiblit. Il révélera le droit selon la vérité, établit le droit sur la terre. » Et que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main, je te protège et je t'établis, pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. » Voilà, on va arrêter là. Donc, un petit rappel sur le livre d'Ésaïe. C'est un livre, en général, qu'on ne lit pas beaucoup, parce qu'il est long. Et parce qu'il y a plein de trucs, on commence, il y a des prophéties, il y a des jugements, malheurs, etc. On se dit, bon, c'est pas pour nous, ça va pas m'encourager de lire des malheurs. Donc voilà. Et puis il faut de la persévérance, hein. 66 chapitres, il faut quand même se les appuyer. C'est pas si simple. Donc, Ésaïe, c'est l'un des livres qu'on appelle apocalyptique. Alors apocalyptique, tout de suite, vous parlez d'apocalyptique à quelqu'un, il va vous dire, oulala, ça y est, des malheurs, des catastrophes, etc. Non, le mot apocalypse, ça veut dire révélation, d'accord ? Donc, ce n'est pas un livre qui annonce des malheurs, c'est un livre qui révèle quelque chose. Et Dieu se révèle à nous. Si on connaît Jésus-Christ aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, c'est que Dieu s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Voilà, donc Ésaïe nous révèle des choses sur la suite des temps. C'est dommage, j'ai quelques diapos. Attendez, je vais essayer avec ça, peut-être. On va faire une tentative. Est-ce que celui-là, il va me le prendre par hasard ? Non, je sais pas ce qu'il y a. Il cherche. Non, si, ça doit être bon là. Ça va être bon, je pense. Normalement, il me l'a prise. Pourquoi ça s'affiche pas ? Pourtant, vous faites ce qu'il faut là. Bon, tant pis. Bon, on l'aura pas. Je vous avais préparé un beau schéma pour vous situer Ésaïe dans l'échelle de temps. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, le livre d'Ésaïe est un livre apocalyptique, mais c'est un livre aussi qui est central dans la Bible, parce qu'il porte en lui tout l'accomplissement des promesses de Dieu en Genèse 3. Genèse 3, c'est la chute de l'homme. L'homme a chuté, il est chassé du jardin d'Éden, c'est perdu pour lui. Non, pas tout à fait quand même, puisque Dieu fait une promesse d'envoyer une solution de salut. Et donc ce livre d'Ésaïe va annoncer, plus que tout autre livre dans l'Ancien Testament, l'accomplissement de cette promesse du salut, c'est-à-dire la venue du Messie, qui est l'espérance de tout homme. Et c'est pour ça que dans le texte du jour qu'on a lu, c'est le texte qui parle du serviteur de l'Éternel, le chant du serviteur. Il y en aura quatre au total, hein, 42, 48, 49 et 53. Ça va être les quatre dimanches à venir. Donc Colin nous parlera dans 15 jours, je crois. David fera le troisième chant et je ferai le quatrième chant sur Ésaïe 53. Voilà. Donc dans la chronologie de la révélation, eh bien Ésaïe, il a prophétisé dans les années 700 avant Jésus-Christ. Pour vous donner un ordre d'idée, Abraham, c'est 2000 avant Jésus-Christ. Moïse, 1500. David, 1000. Là, on est un peu plus tard, 300 ans plus tard, autour de 740, Ésaïe commence à prophétiser. Il a prophétisé sous le règne de plusieurs rois. Il y avait Ozias, il y avait Akaz, Jotham, Ézéchias et même Manassé. Sauf que Manassé était un très mauvais roi, et donc Ésaïe a été complètement persécuté, il n'a plus eu de ministère public. Voilà, donc il a prophétisé à ce moment-là. Quel était l'enjeu à l'époque ? L'enjeu à l'époque, c'est que après David et après Salomon, le royaume a été divisé et le peuple d'Israël, même Juda, est devenu idolâtre. Il a poursuivi d'autres dieux. Et lorsqu'on regarde les fouilles archéologiques qui ont été faites depuis maintenant 200 ans en Israël, les archéologues non chrétiens, très scientifiques, très savants, nous disent que lorsqu'ils fouillent le pays d'Israël, ils trouvent la trace d'une civilisation polythéiste. Plusieurs dieux polythéistes. Il n'y a pas de différence quand on fouille en Israël, quand on fouille en Assyrie, quand on fouille à Babylone, quand on fouille en Égypte, on trouve plein de dieux, même en Israël. Et quand on lit la Bible, dans là, le livre des rois, le livre des chroniques, etc., on voit qu'à un moment donné, ils revenaient à Dieu, mais ils avaient toujours des idoles. Et donc, les traces qui restent, c'est des idoles, des statues, etc. Donc, on a un peuple polythéiste, et le contexte d'Ésaïe, c'est qu'il y a des menaces. Dieu, à un moment donné, ne supporte plus que son peuple s'éloigne de lui, et il va entrer en jugement avec eux. Il va leur envoyer des nations d'envahisseurs. Donc, le royaume a été divisé après David, il y a le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Le royaume de Juda, c'est ce qui porte les promesses. C'est de Juda que doit naître le Messie. Voilà, donc le royaume d'Israël est menacé par les Assyriens. Les Assyriens, c'est la puissance du nord, la grande puissance, qui va envahir sous Ésaïe le royaume d'Israël. Et ça se passe pendant le ministère d'Ésaïe en 722. Et c'est l'objet des premiers chapitres d'Ésaïe. D'accord ? Donc, compte tenu de l'état de désobéissance du peuple qui s'éloigne de Dieu, eh bien le livre d'Ésaïe, c'est un livre d'appel du retour à Dieu. Et tout à l'heure, Jean Lionel nous a lu chapitre 35, sans arrêt la rengaine du livre d'Ésaïe, c'est retour à Dieu, revenez à moi, revenez à moi. Et le cœur du livre d'Ésaïe, on le verra tout à l'heure, le verset cœur du livre, c'est que Dieu parle à Israël en disant il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Je suis le seul Dieu, je suis l'Éternel, revenez à moi, il n'y en a pas d'autre. C'est la rengaine permanente. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que je pense qu'on vit une époque où on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire que le monde nous tire loin de Dieu par toutes sortes de séductions, de tentations, et sans arrêt, on a besoin d'entendre, revenez à Dieu, je suis le seul Dieu, il n'y a qu'en moi que vous trouverez le salut, etc. C'est pour ça que ce texte d'Ésaïe, c'est un texte ultra moderne. On en a tous besoin aujourd'hui. Si vous avez l'occasion, en début d'année, pour ceux qui font des bonnes résolutions, on est le 12, 13 janvier, alors en général, les bonnes résolutions, elles sont déjà parties dans l'eau. Mais quand même, si par hasard, vous avez encore un peu d'énergie pour trouver quelques bonnes résolutions, prenez cette résolution de lire le livre d'Ésaïe à la lumière des enseignements que vous allez recevoir dans les semaines qui viennent. Parce que, tout à l'heure, François nous l'a lu, ce texte des Lamentations de Jérémie, lorsque le Seigneur afflige, lorsque le Seigneur juge, lorsque le Seigneur punit, eh bien, Lamentations 3, verset 33, nous dit, lorsque le Seigneur afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Parce que ce n'est pas volontiers qu'il humilie les fils des hommes, je cite Lamentations 3. Ce n'est pas volontiers, Dieu ne fait pas ça parce que c'est un sadique. Il nous juge et nous punit pour nous ramener à lui. Et c'est ce qui fait que le peuple d'Israël. Il envoie les prophètes sont persécutés. Dieu ne sait plus comment parler. Alors, il est obligé d'envoyer un jugement. Et c'est ce qui va se passer. Royaume du Nord, en 722, en plein dans le ministère d'Ésaïe, le royaume du Nord est envahi. Les Assyriens déportent le royaume du Nord, le remplacent par des populations autochtones, ça va devenir les Samaritains. Mais le royaume de Juda n'est pas meilleur. Il a juste un petit sursis de quelques dizaines, quelques centaines d'années, puisque en 603 et en 589, les Babyloniens vont arriver et vont envahir le royaume qui sera également déporté. Mais encore une fois, le but de Dieu est pédagogique, c'est d'amener les gens à revenir à lui. Et c'est ça le centre, le cœur du livre d'Ésaïe. Donc c'est un livre très moderne. C'est un livre qui est très présent aujourd'hui. Mais c'est aussi un livre qui regarde vers le futur. Parce que, je vous l'ai dit, plus que tout autre, hein, c'est derrière les psaumes, c'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Par exemple, au chapitre 7, vous connaissez ce passage, « La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. » On le lit à Noël. Ça, c'est Ésaïe chapitre 7, cité en Matthieu chapitre 1. Et puis, au chapitre 9, un peu plus loin, « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Hein, » cité dans Matthieu 4. Et donc, Ésaïe va nous décrire le ministère terrestre du Messie 700 ans avant l'arrivée de Jésus. Ésaïe va parler non seulement, alors il va parler du Messie, mais il va en parler de plusieurs manières. Il va parler du Messie souffrant, ça sera l'objet d'Ésaïe 53, ce texte bien connu. Mais il va parler aussi du Messie roi. Un peu plus loin dans le chapitre 61, il va parler du Messie roi, c'est-à-dire le Jésus glorieux qui reviendra une deuxième fois. Donc la projection qu'Ésaïe fait sur le futur, c'est pas juste le Messie souffrant qui va mourir sur la croix, pour lequel on a célébré la scène tout à l'heure, mais il va aussi parler du Messie qui va revenir glorieux. Il parle de la fin des temps, il parle des temps messianiques futurs, il parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Il parle également d'un moment où le lion va cohabiter avec un agneau. Aujourd'hui, vous mettez un lion avec un agneau, ça reste pas longtemps. Hein. Et bien un jour, un lion va cohabiter avec l'agneau. Le bébé, il va se rouler dans la paille avec un serpent. Et rien ne se produira. Ça veut dire que c'est un état messianique futur qui n'est pas encore là. Et Ésaïe en reparle. Et puis il y a ce texte que Jésus va citer dans la synagogue de Nazareth, hein, qu'on lit au chapitre 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. » Vous connaissez ce texte. Hein? Et d'ailleurs, en citant ce texte, Jésus, ça va lui coûter cher, parce qu'on va l'emmener sur le bord de l'escarpement de Nazareth pour essayer de le jeter dans le vide. Voilà, donc c'est un livre qui est très, très moderne, très prophétique. C'est un livre qu'on divise en deux parties. Très rapidement, pour ceux qui vont le lire. Vous avez du chapitre 1 au chapitre 39, c'est ce qu'on appelle le livre du jugement. C'est-à-dire que là, Dieu va dire, ben voilà ce qui se passe. Vous avez péché, il y aura des conséquences. Ça, c'est le livre du jugement. Et puis, à partir du chapitre 40, changement radical de ton, on passe au livre de la consolation. Parce que le caractère même de Dieu, c'est pas de punir méchamment, sauvagement, c'est pas de se venger, de se défouler, c'est justement de ramener les gens à lui. Et donc après le jugement vient la consolation. À partir du chapitre 40, le livre de la consolation. On change radicalement de ton, à tel point que certaines personnes ont dit, des spéculateurs, oui, bah Ésaïe, en fait, il a été écrit par plusieurs personnes. Il y en a même qui disaient, il y a une école ésaïenne, il y avait des disciples, machin, etc. On se croit en pleine peinture vénitienne, vous savez, avec tous les grands peintres qui avaient leur... c'est des spéculations. Moi, je pense personnellement que c'est un auteur, Ésaïe, un scribe et un inspirateur qui est le Dieu Tout-Puissant et qui va insuffler le livre de la consolation. D'ailleurs, c'est très simple à retenir. Le livre d'Ésaïe est tellement central qu'il y a autant de chapitres dans le livre de la consolation, 1 à 39, qu'il y a de livres dans l'Ancien Testament. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, 39 chapitres pour le livre du jugement d'Ésaïe. Chapitre 40 à chapitre 66, 27 livres, il y a autant de chapitres dans le livre de la consolation que de livres dans le Nouveau Testament. Alors, bon, c'est peut-être pas voulu, parce qu'en hébreu, c'était écrit, la division en chapitres est beaucoup plus tardive, mais la division en chapitres est quand même pas aléatoire, et on peut dire qu'il y a peut-être une inspiration aussi du Saint-Esprit. Voilà. Et pourquoi je vous fais cette longue introduction? Eh bien, pour vous dire aussi que le livre d'Ésaïe est clé pour saisir ce que j'appelle la grande histoire de la Bible. C'est-à-dire que pour saisir la grande histoire de la Bible, il faut avoir lu la Bible plusieurs fois complètement. Je ne sais pas si plusieurs personnes sont dans ce cas-là, mais quand vous avez lu la Bible 5, 6, 7 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, vous commencez à saisir la grande histoire de la Bible. Vous comprenez l'ensemble. Les anglo-saxons parlent de « big picture ». Vous connaissez Big Picture? C'est avoir une vision globale. C'est la vue d'avion. Quand je regarde la France d'avion, je vois que c'est un hexagone. Si je suis à Lyon, je regarde autour de moi, je ne vois pas l'hexagone. Donc pour voir l'hexagone, il faut que je monte très haut dans le ciel. Mais là, c'est pareil. Pour avoir cette grande histoire de la Bible et comprendre l'histoire de l'humanité, comprendre les enjeux, comprendre pourquoi tel événement arrive, il faut avoir lu cette histoire, cette Bible. Par exemple, dans Ésaïe 14, vous avez, sous couvert d'une prophétie contre le roi de Babylone, vous avez un éclairage de ce qui s'est passé au moment de la chute de Satan. C'est unique. Vous avez un éclairage sur le sort qui attend les puissants de ce monde. À un moment donné, le roi de Babylone, dans Ésaïe 14, il arrive dans le royaume des morts, et tous les grands, tous les puissants qui l'ont précédé, Nimrod, tous les gens, l'attendent et lui disent « Mais t'es devenu comme nous maintenant, c'est-à-dire t'es nu comme un ver. T'avais beau avoir Babylone, des jardins suspendus, la gloire, la puissance, l'argent, les femmes, maintenant t'es dans le royaume des morts, t'es à plat. » Et c'est rassurant pour nous, parce que quand on voit tous les puissants de ce monde, quand on voit l'injustice qui règne, les gens qui s'enrichissent de plus en plus, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, quand on voit ça, on a de quoi se mettre en colère. Mais lorsque vous comprenez la grande histoire de la Bible, ben vous comprenez que ça a un temps limité. Ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'ai beau être à la tête des grandes sociétés, d'être numéro 18 ou 25 ou 34 dans le classement de la fortune mondiale, la fortune française, un jour je vais être comme le roi de Babylone. Je vais arriver nu comme un ver dans le royaume des cieux et je vais attendre le jugement de Dieu. Voilà. Bon, j'insiste pas plus, mais je veux vous signaler l'importance du livre d'Ésaïe. Et donc, on va commencer donc cette étude du livre de la consolation et du premier chant du serviteur de l'Éternel. Alors, je suis très handicapé par l'absence de diapo, je suis désolé, parce que ça vous aurait permis de suivre, mais on va faire avec, et puis éventuellement, je vous l'enverrai. Pardon ? Tu as quoi ? Oui, je sais, tu la vois. Bah écoute, non, c'est comme ça. Je sais pas, c'est... T'as quelque chose ?
Tu peux switcher, Max ?
Non, mais il se connecte. À un moment donné, il se connecte. Même là-dessus, ça, il se connecte. Mais on va voir. Bon. Ah, mais si, c'est bon. Ça y est.
Ah, c'est juste.
Guy, merci Seigneur et merci Guy. Bravo. Oui, parce que j'ai relancé. Ah bah attends, c'est pas gagné encore. Parce que... Là, normalement, mon écran devrait s'afficher là. Normalement, mon écran devrait s'afficher. Donc, Ah, je crois que non. On s'est un peu réjouis trop tôt. Ah là là, bon. Bon, ça fait rien. Je me dis que Dieu est souverain, ça va être ma conclusion. Hein. Dieu est souverain, donc s'il permet que ce soit comme ça, c'est qu'il a préféré peut-être que ça se passe différemment. Alors, on va prendre le verset 1. On va étudier verset par verset, je regarde l'heure, parce que comme toujours, je parle beaucoup. Hein, pourtant, Marie-Laure m'avertit tout le temps en disant « mais tu vas être trop long, tu vas les saouler, tu vas leur casser les pieds, le rôti est au four et tout, mais bon, c'est comme ça. » Alors, verset 1. Non, mais elle fait bien son travail. Merci, Marie-Laure. Alors, verset 1, c'est l'introduction. C'est l'introduction du serviteur. Le serviteur, vous l'avez compris, et je vais défendre ce point de vue, bien que d'autres personnes ne soient pas d'accord. Le serviteur est le Messie promis. Il y a plusieurs serviteurs, en fait, dans le livre d'Ésaïe. Vous avez trois serviteurs. Premièrement, il y a Israël, le serviteur. Dieu appelle Israël son serviteur. Pourquoi ? Parce que Israël était censé servir le Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle aux nations. Sauf qu'Israël, non seulement n'a pas annoncé la bonne nouvelle, mais Israël n'a pas tenu sa position. Israël a été dans la désobéissance. Donc, Israël a failli à sa tâche. Et Israël va être réduit à une personne qui sera le Messie. Parce que le Messie vient d'Israël. Donc, le vrai serviteur, ça sera le Messie. Ésaïe nous parle d'un deuxième serviteur aussi, qui sera Cyrus. Cyrus, c'est le roi perse qui va ordonner le retour de l'exil de Babylone. Je vous ai dit tout à l'heure, le royaume du sud, Juda, va être exilé un peu plus tard que le royaume du nord. Et le retour de Juda va se faire par un édit, un décret du roi Cyrus, qui nous montre encore une fois, big picture, grande image de la Bible, grande histoire de la Bible, Cyrus qui était le roi perse le plus puissant qui a conquis Babylone, qui avait le royaume perse, si vous voyez un peu, il allait de la Grèce pratiquement jusqu'à l'Arabie, l'Égypte presque jusqu'au Maroc, dans l'Est, Kazakhstan, ces pays-là, c'était très très grand pour l'époque. C'était le roi le plus puissant. Et la Bible nous dit qu'il était un instrument dans la main de Dieu, puisqu'à un moment donné, Dieu lui a inspiré des pensées et il a écrit ce décret en disant « Mon peuple va revenir en Israël ». C'est pour vous dire que quelles que soient les puissances de ce monde, quelles que soient les circonstances qui vous arrivent, Dieu, il est bien plus puissant que ça. Puisqu'il est capable de faire revenir un peuple entier, de changer l'esprit d'un roi pour qu'il fasse un décret, ça veut dire que Dieu est plus puissant que tout. Voilà. Donc Cyrus était un serviteur qui était intermédiaire, qui était momentané, mais le vrai serviteur, c'est Jésus. C'est celui qui allait venir plus tard. Et là, il est introduit dans le premier chapitre. « Voici mon serviteur ». Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce premier verset ? Eh bien, déjà, ce premier verset, il va s'opposer au dernier verset du chapitre 41. Regardez le dernier verset. Verset 29 nous dit « Voici, ils ne sont tous qu'un rien ». Que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Donc il va opposer le serviteur à toutes les autres nations, tous les autres rois. Et il va dire, voici, en introduisant, voici mon serviteur, auquel je tiens fermement. Notez la relation ici de Dieu avec son serviteur. Il est mon serviteur. Il est à lui ce serviteur. Bien sûr, c'est son fils. C'est la deuxième partie de la Trinité. Celui que je soutiendrai, auquel je tiens fermement. C'est celui qui a l'approbation, en qui mon âme prend plaisir. Ça vous rappelle rien, celui en qui mon âme prend plaisir? Ce qui est écrit du serviteur, là. Ésaïe écrit dans les années moins 730 à peu près. Ça vous rappelle rien? Le baptême de Jésus, la voix qui descend, celui-ci est mon fils bien-aimé. Hein. Donc on voit une continuité, il n'y a pas photo, c'est Jésus. On est en train de parler de Jésus là. Ça rappelle les paroles du Père lors du baptême. Et puis il y a la notion de choix et d'élection que j'ai choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Et ça nous rappelle que dans le royaume de Dieu, il y a la notion d'élection. Dieu choisit, Dieu fait des choix. Et c'est un principe basique de leadership, on fait des choix. Quand on est ancien, eh bien les anciens choisissent les anciens. Ce n'est pas une élection démocratique à la majorité, celui qui plaît au plus grand nombre. Non, il y a un choix qui se fait. Il y a une désignation. D'accord ? Ça rappelle aussi le chapitre 5 d'Ésaïe, où Dieu avait choisi une vigne à l'image de la vigne. Dieu a choisi la vigne, mais la vigne a produit des raisins qui n'étaient pas bons. Donc Dieu est obligé de choisir quelqu'un d'autre, quelqu'un de ferme, et c'est le serviteur. Parce que Israël a déçu. J'ai mis mon esprit sur lui. Alors ça, c'est important. À quel point, ici, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Plusieurs fois, c'est répété. En Ésaïe 11, il nous dit « Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel sera sur lui. Hein » Lorsque Jésus est baptisé, le baptême de Jésus, l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Hein, lorsqu'il est dans la synagogue de Nazareth, je vous l'ai dit tout à l'heure, il commence par citer ce texte d'Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Bref, tout le ministère de Jésus a été placé sous la dépendance du Père et de l'Esprit Saint. Et ça, c'est très important pour nous. Parce que ce serviteur, c'est un modèle de comportement pour nous. Et Jésus a tout le temps été soumis au Père. Il était sous la dépendance du Saint-Esprit. Il était en relation avec son Père. C'est ça la clé d'une année réussie. Vous voulez que 2019 soit une année réussie ? Mettez-vous sous la dépendance du Saint-Esprit. Soumettez-vous à Dieu. Vous avez des tentations dans la vie. Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission de Jésus au Saint-Esprit. Hein ? C'est ce qui est dit ici. J'ai mis mon esprit sur lui. Dieu a mis son esprit sur Jésus. C'est quasiment le seul. Dans l'Ancien Testament, le seul qui était à peu près similaire à ça, c'est David, puisqu'il est dit, lorsque David a été oint, le roi David, l'Esprit du Seigneur vint sur lui maintenant et par la suite. Sinon, l'Esprit était donné ponctuellement. À un moment donné, l'Esprit tombait sur quelqu'un. Le roi Saül, hop, il tombait sur lui, il s'est mis à prophétiser. Mais ça durait qu'un instant. L'Esprit était donné à petite mesure dans l'Ancien Testament, sauf pour David. Mais David est un ancêtre, un type de Jésus-Christ. Alors que Jésus, tout le ministère de Jésus a été placé sous la dépendance du Saint-Esprit. Que ce soit sa conception miraculeuse, il est né d'une vierge, il est né de l'Esprit-Saint. Ses années de jeunesse où on le trouve dans le temple, il est sous l'influence du Saint-Esprit. Son baptême, on l'a dit. Sa tentation, la Bible nous dit, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Tout son ministère public, il était soumis au Saint-Esprit. Même sa mort, son ascension, sa résurrection, il était soumis au Saint-Esprit. Alors la question sur ce premier verset, c'est est-ce que je suis soumis au Saint-Esprit ? Est-ce que je suis soumis ? Comment est-ce que je me soumets au Saint-Esprit ? Hein, c'est pas juste en restant béat comme ça et en attendant que ça nous tombe dessus. Non, parce que Jésus dit en Jean 14, il nous dit « Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Jésus nous a dit. Comment est-ce qu'on peut rappeler ? On ne peut rappeler que quelque chose qui est rentré. On est bien d'accord ? Donc les gens qui disent « Je suis chez moi, je suis en extase et le Saint-Esprit m'a montré que... » Moi, je veux bien. Mais les gens qui disent ça 10 fois par semaine, c'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que le Saint-Esprit nous rappelle des choses. Ça vous est jamais arrivé, vous êtes perdu à un moment donné, vous cherchez quelque chose, et hop, tout de suite, ça vous vient. Eh bien, peut-être que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Vous êtes en train de témoigner dans la rue, vous partagez l'Évangile, vous ne savez pas comment vous y prendre, la personne en face est un peu agressive, et hop, là, vous avez une sagesse qui vous envahit, vous avez le verset qui tombe, vous avez la parole de sagesse qui sort. Ou alors vous aidez un frère qui est dans la difficulté, ou une sœur, vous ne savez pas quoi lui dire, et à un moment donné, le Saint-Esprit vous dit quelque chose. C'est ça, être soumis au Saint-Esprit. Donc prenons modèle sur Jésus, il est soumis au Saint-Esprit. Ensuite, ce qui nous est décrit dans le texte, c'est le caractère du serviteur. Alors ça, c'est intéressant, le caractère du serviteur. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que quand je regarde mon caractère à moi, eh bien, j'ai beaucoup à apprendre du caractère du serviteur. Alors, 4 choses sont soulignées ici. Premièrement, regardez au verset 2. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne fera pas entendre dans les rues. Alors peut-être que ce verset est destiné par avance déjà à montrer le contraste avec un roi comme Cyrus. Parce que souvenez-vous, Cyrus, le libérateur d'Israël quand il était à Babylone, Cyrus était un roi puissant, un guerrier, donc quelqu'un qui haranguait ses troupes, quelqu'un qui parlait fort, quelqu'un qui devait beaucoup crier sur le champ de bataille, qui devait galvaniser ses troupes. Mais le serviteur ici, il n'est pas du tout comme ça. Il ne crie pas. Il parle normalement et il parle avec sérénité et tranquillité. C'est ça la caractéristique du serviteur. C'est quelqu'un de paisible qui parle, comme on dit, avec assertivité. C'est-à-dire qu'il affirme les choses. Et quand on voit Jésus, lorsqu'il témoigne dans le temple, il a tout le temps de l'opposition. Il parle toujours paisiblement. Il annonce les choses. Même quand il est devant Pilate, il est arrêté, il est au prétoire. Pilate l'accuse, on l'insulte. On lui dit « Mais tu ne réponds pas, tu es complètement fou de ne pas répondre et tout. » Il était paisible. Lorsqu'il est frappé par un soldat, au lieu de l'insulter, il dit « Mais si j'ai dit quelque chose de mal, dis-moi ce que j'ai dit. » Et si j'ai rien dit de mal, pourquoi est-ce que tu me frappes ? Donc cette tranquillité, cette sérénité, cette force qui émane du serviteur de l'Éternel. Et donc ce qui est dit ici, eh bien, ça s'est révélé en Jésus. Et c'est ça qui est intéressant dans ce texte. C'est pas d'étudier pour étudier, parce que le texte, il est facile à comprendre. C'est de faire le lien entre ce qui est écrit et ce qu'a fait réellement Jésus. Et c'est là qu'on voit c'est la réalité des choses. Donc, il parle avec tranquillité et sérénité. Deuxièmement, il ne brisera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume, mais il révélera le droit en toute vérité. La deuxième caractéristique, c'est sa douceur et son tact. J'aime beaucoup ce texte. Parce que c'est vraiment un contraste. Et souvenez-vous, donc c'est pour ça que je vous ai parlé du contexte, on est en 740, la puissance montante, c'est l'Assyrie. On sait que les Assyriens sont cruels, ils sont durs sur le champ de bataille. eh bien, le serviteur, il est tout à fait différent, il est paisible. Et Jésus, oh, c'est formidable ça, c'est que Jésus, lui, il sait toujours trouver les mots justes. Il sait toujours trouver les mots justes, il ne brise pas les choses. Quand on le voit avec la femme adultère, qui est complètement cassée, il ne va pas lui dire « t'es une adultère ». Il va la prendre, il lui dit « mais où y sont passés les autres ?» Il lui dit « va, moi je ne te condamne pas ». Mais il n'est pas complaisant, il lui dit « ne pêche plus ». Il a vraiment ce ton juste. On pourrait citer la Samaritaine aussi, comment il l'a abordée. Hein, j'en ai parlé il y a un an et demi, retourné voir le message, le modèle de communication pour aborder une femme brisée. Le jeune homme riche, la Bible nous dit que Jésus l'aima. Il n'est pas en train de le juger en disant « toi, t'es un riche, là, hop, t'es le président des riches, alors va te faire foutre ». Excusez-moi, je parle un peu crûment, là, mais... Mais le jeune homme riche, il l'a aimé parce qu'il savait qu'il était dans des liens. C'est toujours essayer de comprendre. Au-delà des apparences, il faut toujours essayer de comprendre la personne. Je dis toujours que les gens, quand ils font quelque chose, ils ne le font pas de manière mauvaise la plupart du temps. Dans certains cas, oui, mais c'est très rare. Les gens font de leur mieux, très souvent. Ils font de leur mieux, mais ça ne produit pas le résultat qu'ils veulent. Donc Jésus, il savait, il avait du tact. Alors c'est intéressant aussi de voir cette image, parce que si on se souvient un peu, c'est quoi « il n'éteindra pas la mèche qui fume ». Il faut savoir que les mèches des lampes qui brûlaient dans le temple, c'est des mèches qui étaient faites en fil de lin. Les fils de lin devaient être brisés avant. Vous voyez, donc il y a déjà une référence à « il ne brisera pas le roseau cassé ». Il ne va pas accentuer les choses. Mais ces mèches de lin qui étaient brisées avant, elles étaient tressées en une mèche pour qu'elles portent de la lumière. Il y a toute une symbolique parce que la mèche trempait dans de l'huile et la mèche n'était qu'un vecteur de la lumière. C'est-à-dire que la flamme qui brûlait au bout de la mèche, c'était une flamme qui transmettait l'huile qui montait par capillarité dans ces filaments de lin. Donc ce que Jésus dit là, c'est qu'il n'éteindra pas la mèche qui fume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sacrificateurs dans le temple, quand la mèche commençait à fumer, c'est qu'elle était trop vieille, elle était bonne à jeter. Donc les sacrificateurs venaient, ils prenaient la mèche, ils en mettaient une neuve. Heureusement que Jésus ne fait pas ça avec nous. Parce que dès qu'on est mauvais, dès qu'on est pécheur, si Jésus nous prenait, nous jetait et nous remplaçait, non, il tient compte du fait qu'on soit brisé. Comme ces filaments de lin qui sont brisés pour faire une mèche, Jésus n'éteint pas, c'est ça la signification. Il n'éteint pas la mèche qui fume, c'est qu'à un moment donné, il y a une mèche qui est bonne à être jetée, comme nous, chacun de nous, et bien Jésus, il ne fait pas ça. Il va nous garder, il va nous conserver. Il y a une très belle image dans l'Ancien Testament, c'est David, vous savez, le roi David, quand il prend son royaume, quand il prend son règne, en général, les rois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils trucidaient la famille. Comme ça, on ne laissait pas de descendants, il n'y avait pas de traces. Et là, David se retrouve face à un petit-fils de Saül, qui s'appelle Méphibosheth. Et Méphibosheth, il est boiteux. Pourquoi? Enfin, la Bible, dans les vieilles versions, il est perclus des pieds. Hein. Pff, c'est un terme, je n'ai jamais rien compris. Mais bon, il est boiteux maintenant. Méphibosheth, il est boiteux, il est bon à être jeté. Pourquoi? Parce que quand il était bébé, la servante, un jour il y avait une menace, elle s'est enfuie, elle l'a laissé tomber, il a dû se payer 2 fractures aux jambes, consolidation de travers, il ne pouvait plus marcher. Et David, qu'est-ce qu'il prend? Il le prend et il l'amène à la table du roi. Et il dit, Méphibosheth va manger à la table du roi tous les jours. Et c'est notre cas. On est des boiteux de la vie. Jésus nous prend, il n'éteint pas la mèche qui fume, et il nous invite à sa table. Et aujourd'hui, on est invité à sa table. On est invité à venir louer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui est présent dans cette pièce. Voilà. Donc Jésus, beaucoup de tact, beaucoup de douceur. Troisième caractéristique du serviteur, c'est sa fidélité. Sa fidélité qui va amener le droit. Il va révéler le droit. 2 fois, c'est répété que le serviteur révélera le droit. Et puis, 4e élément, je vais vite parce que le temps passe, c'est sa force et sa puissance. Il ne faiblira pas, verset 4, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre et les îles placeront leur attente dans sa loi. Et là, on a ici la notion de persévérance du serviteur. Il ne se relâchera pas. Et on voit que Jésus, malgré l'opposition, il est allé jusqu'au bout. Je vais vous dire franchement, si j'avais été à la place de Jésus, mais c'est une image complètement folle, je ne peux pas être à la place de Jésus, mais si j'avais été à sa place, moi j'aurais abandonné. Au bout de la première ou la deuxième opposition, j'aurais dit, bon, ils ne veulent pas écouter, allez, je m'en vais. Moi j'aurais fait comme ça. Hein. Mais Jésus, il est allé jusqu'au bout, parce que quand il s'est retrouvé sur la croix, il a dit, tout est accompli. Donc sa persévérance, elle est exemplaire. Elle est exemplaire. Et ici, quand on parle des îles qui placeront leur attente dans sa loi, les îles, c'est quoi? À l'époque, les îles, c'était ce qu'il y avait le plus lointain. Le monde était plus petit que maintenant. C'était ce qu'il y avait de plus lointain. Donc les îles, ça veut dire l'ensemble de la population va entendre sa loi. C'est pour ça que Jésus dira, avant de partir, l'évangile, avant son deuxième retour, l'évangile sera prêché pour toutes les nations. Et c'est ça, c'est toutes les nations qui attendent cet évangile. Voilà, donc quatre caractéristiques du serviteur, on y reviendra. On a aussi au verset 5 et au verset 8 le caractère de celui qui envoie et qui choisit, c'est le caractère de Dieu. Et là, ça fait référence aussi au thème central d'Ésaïe. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel, qui l'a déployé, qui a déposé la terre et tout ce qu'elle produit, etc. On voit ici au verset 5 la majesté de Dieu, on l'a chanté ce matin. C'est-à-dire que la majesté de Dieu, c'est la majesté qui annonce l'arrivée du Messie et qui envoie ce Messie. Et donc ça nous rappelle encore une fois la grande image de la Bible, c'est que Dieu est souverain, il est aux commandes. Verset 8, « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » C'est la toute-puissance de Dieu, c'est la majesté de Dieu, c'est le règne de Dieu qui est souverain sur l'ensemble des choses, qui est souverain sur ta vie. Sur ta vie, Dieu est souverain. Tout ce qui arrive dans ta vie est permis par Dieu, parce qu'il est souverain. De la même façon qu'il appelle Cyrus, qu'il appelle tel et tel roi, qu'il appelle Alexandre le Grand, qu'il le fait mourir, qu'il appelle Jules César, qu'il le fait mourir, c'est Dieu qui permet tout ça. Donc Dieu est souverain, souvenons-nous du caractère de Dieu. Et enfin, la mission du serviteur, verset 6 et verset 7, la mission du serviteur, eh bien c'est quoi? C'est porter le salut jusqu'aux extrémités du monde, c'est ce qu'a fait Jésus. Bon, il l'a fait partiellement, hein, parce que son ministère était centré sur Israël, mais il a donné l'ordre à ses disciples d'aller le porter en Samarie, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la mission du serviteur, la mission de Jésus, c'est de porter la bonne nouvelle, c'est d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et c'est d'établir une nouvelle alliance. Les Juifs connaissaient l'alliance de Moïse, mais Jésus est venu pour établir une nouvelle alliance. Donc Jésus, c'est un nouveau Moïse, c'est un nouveau Josué, parce qu'il nous donne le repos en nous introduisant dans le pays promis. D'accord? C'est la personne d'une nouvelle alliance. Et puis verset 7, « Pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Ça, c'est formidable, parce que dans l'évangile de Matthieu, par exemple, quand nous lisons, Jean-Baptiste est mis en prison, et à un moment donné, il se dit, il est découragé. Peut-être vous êtes découragé ce matin par quelque chose. Et Jean-Baptiste, il est en prison, il a dit, mais à quoi bon? J'ai prêché dans le désert, j'ai annoncé la repentance, je me retrouve en prison, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et il va dire à Jean, il envoie des émissaires vers Jésus et lui dire, mais est-ce que c'est toi qui dois venir ou c'est un autre? Je suis un peu paumé, moi Jean-Baptiste en prison. Et ce qu'est-ce que lui répond Jésus au verset 4 du chapitre 11 de Matthieu? Allez annoncer à Jean ce que vous voyez et entendez. Et là au verset 7 de ce chapitre 42 d'Ésaïe, on voit toute la mission réelle de Jésus, ouvrir les yeux des aveugles, faire sortir les détenus de prison. Alors il y a des prisons physiques, mais il y a des prisons morales. Quand Jésus a délivré des gens, des démons, le démoniaque de Gadara, etc., ce sont des signes qui annonçaient la venue du Messie. C'est pour ça que les pharisiens, qui connaissaient les Écritures, ils ne pouvaient pas, en lisant ce texte, ignorer que Jésus était le Messie. Ils ne pouvaient pas, ce n'est pas possible. Quand vous lisez ce texte, ce n'est pas possible de ne pas faire le lien. À tous les versets, il y a des versets qui correspondent. Je n'ai pas le temps de les passer en détail, c'est dommage, j'en avais quelques-uns sur le... Mais ce n'est pas grave, vous aurez quand même saisi un petit peu. Voilà, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que Jésus est bien le Messie qui devait venir. Alors, pour conclure, je vous avais dit quatre questions, quatre applications pratiques. Première application, c'est que Jésus est bien le Messie annoncé. 700 ans avant, Dieu avait prédit que le Messie allait venir, qu'il allait naître à Bethléem. Ça, c'est le livre de Michée. Hein. Michée, c'est un contemporain d'Ésaïe, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la plus petite des terres de Juda, mais de toi naîtra un Messie qui paîtra mon peuple. Hein. C'est dans le livre de Michée. Donc Jésus, c'est bien le Messie qui a tout accompli parfaitement ce qui avait été prévu pour lui, qui avait été choisi. C'est bien le Messie. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que toi, ce matin, là, je m'adresse à toi individuellement, toi, est-ce que toi, ce matin, tu as accepté le Messie? Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce qu'il est devenu ton sauveur? Est-ce qu'il a pardonné tes péchés? Est-ce qu'il est devenu ton Seigneur? Est-ce que tu as soumis ta vie? Est-ce que 2019, ça sera une vie que tu vas soumettre à Jésus? C'est ça la question. Parce que Actes, chapitre 4, verset 12, nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Donc tout ce qui est mauvais en nous ne peut être sauvé, balayé que par Jésus. Première question. Jésus est le Messie qui a tout accompli. La deuxième question que j'aimerais vous poser. Quel caractère de Jésus que nous avons vu tout à l'heure, et je vais les répéter. Quel caractère de Jésus que nous avons vu tout à l'heure, du Messie, est-ce que je dois le plus travailler dans ma vie? On a vu quatre caractères. Jésus, il était plein de sérénité. Est-ce que je suis quelqu'un qui est serein ou est-ce que je suis quelqu'un d'agité? C'est peut-être ça que j'ai besoin de travailler le plus. On a vu qu'il était plein de douceur. Il ne brisera pas le roseau broyé. Est-ce que je suis plein de douceur, connu pour plein de douceur, ou connu pour être plutôt agressif, pour être démarré au quart de tour? Troisième caractère, la persévérance et la fidélité. Ou est-ce que je suis quelqu'un qui abandonne facilement? J'abandonne dès que c'est un peu dur, dès que la pente devient un peu raide. Et puis quatrième caractère, la force pour accomplir le plan de Dieu. Est-ce que je suis fort pour aller de l'avant ou est-ce que je suis dans la faiblesse, la mollesse et le relâchement? Donc quel est le caractère? Chacun répond pour lui. La sérénité, la douceur, la persévérance et la force pour accomplir le plan de Dieu. Lequel vous choisissez des quatre? Qu'est-ce que vous auriez besoin de travailler? Troisième application, est-ce que je suis un serviteur zélé pour porter la lumière aux nations? Israël a été mandaté par Dieu pour porter la lumière aux nations, mais Israël a échoué. Mais le vrai serviteur soumis au Saint-Esprit a réussi. Est-ce que je veux être comme Israël? Rester tranquille au chaud dans mon coin, dans ma petite église? On est bien entre nous, hein. On fait des agapes sympas, on projette quelques films, on est tranquille. Hein. Mais est-ce que je vais être un serviteur zélé? Et on vous proposera dans quelques temps, on organise le 1er et le 2 mars à Lyon un événement qui s'appelle Sel et Lumière, qui va vous encourager à devenir des témoins zélés. Alors déjà, dans 15 jours, on a dimanche après-midi un travail qu'on fera ensemble sur la rédaction de votre témoignage. Si vous voulez apprendre à faire un témoignage, peut-être vous l'avez oublié, ou pour ceux qui seront baptisés, qui vont se faire baptiser, vous viendrez aussi. On apprendra à faire un témoignage. Sinon, 1er et 2 mars, notez la date, vendredi soir et samedi, on a l'événement Sel et Lumière, où on va travailler. Ce n'est pas un enseignement comme Ouette, hein, c'est complémentaire. Ouette, c'est un enseignement théologique. Là, ça va être un travail. On va travailler en table ronde sur des valeurs personnelles. On va apprendre à s'ouvrir, à être vrai avec les autres. Donc, on vous en parlera d'ici une quinzaine de jours. On proposera cet événement pour toutes les églises de la région lyonnaise et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc soyons des serviteurs zélés pour porter la lumière. Et enfin, la quatrième application, après le fait que Jésus soit le Messie, après le caractère que je vais choisir des quatre caractéristiques du serviteur, après le fait d'être serviteur zélé pour porter la lumière aux nations, le quatrième, c'est de souvenir que Dieu est souverain. La Bible nous dit « Dieu est aux cieux, il fait ce qu'il veut ». D'accord ? Malgré l'échec d'Israël qui a failli, Dieu n'est pas pris au dépourvu. C'est pas « Oh mince, je comptais sur Israël, oh, qu'est-ce que je vais faire ? Oh, ils sont devenus idolâtres, oh, j'ai pas de plan B. » Non, c'est pas vrai. Dieu, il fonctionne pas comme ça, il a déjà tout prévu. Malgré nos échecs, malgré nos insuffisances, malgré tout ce qu'on fait mal, malgré la panne du PowerPoint, Dieu a permis que le message se délivre ce matin. Parce que Dieu, il a un plan éternel qui se déroule. Et je vous invite à changer de perspective cette année. Parce que Dieu est plus grand que vos circonstances. Ça, c'était le chapitre 40 d'Ésaïe. Dieu est plus grand que vos peurs, chapitre 41 d'Ésaïe. Dieu n'abandonne jamais, même avec une mèche qui faiblit, même avec un roseau brisé. Pourquoi il abandonne jamais? Parce qu'on verra dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de briser le serviteur par la souffrance. C'est Jésus qui a été brisé. Donc nous, moi si je suis un roseau brisé, Dieu ne va jamais me briser. Parce que celui qui a été brisé pour moi, c'est Jésus. Voilà. Et donc j'ai juste besoin de faire silence devant lui. En début de cette année 2019, pour écouter sa voix. Habacuc 2:20 nous dit « L'Éternel est dans son saint temple ». Que toute la terre fasse silence devant lui. Jean-Lionel a parlé de recommencement au début. Il a parlé d'un Dieu des nouveaux départs. Dieu est un Dieu de nouveaux départs. C'est un Dieu de renouveau. Alors aujourd'hui, je vous invite en ce début d'année à faire silence devant lui et à laisser la puissance du renouveau de Dieu nous envahir, nous montrer qu'est-ce qui doit être changé chez nous. Qu'est-ce que je dois faire pour revenir peut-être à Dieu? J'ai été loin, ok. Dieu ne m'en veut pas. Mais il me demande de revenir à lui aujourd'hui parce que c'est celui qui fait pousser des fleurs. On peut l'afficher, hein, cette belle image. C'est celui qui fait pousser des fleurs dans le désert. Et comme Ésaïe a parlé à ces Juifs qui étaient découragés, eh bien il nous parle aujourd'hui encore en nous disant « Dieu est un Dieu de renouveau parce que le serviteur de l'Éternel a payé pour tous ». Amen.